Charles Ferdinand Ramuse, si le soleil ne revenait pas. Chapitre 1. Vers les 4h30, ce jour-là, Denis Revaz sortit de chez lui. Il boitait assez bas. C'était son genou qui n'allait pas, comme il disait. Et on lui disait « Comment va votre genou ?» Il répondait « Il ne va pas fort. » Ainsi, il allongeait, non sans difficulté, la petite rue qui traverse le village. Et on l'a vu ensuite s'engager sur sa gauche dans un sentier qui menait à une vieille maison. À peine si on l'apercevait encore dans l'ombre, cette maison. On distinguait pourtant que c'était une maison de pierre, avec un toit couvert en grosses dalles d'ardoise, et il se confondait par sa couleur avec la nuit. Mais est-ce bien la nuit? Ou est-ce le brouillard? Ou encore autre chose? Parce qu'il y avait déjà plus de 15 jours que le soleil était disparu derrière les montagnes pour ne reparaître que 6 mois plus tard. Et puis, c'était ce genou qui n'allait pas. Revaz s'était arrêté pour laisser se calmer un instant la douleur. Alors, dans l'obscurité grandissante, par l'ouverture des fenêtres qu'il y avait sur le devant de la maison, une lueur roussâtre s'était mise à bouger comme une aile de chauve-souris. Ces fenêtres n'avaient ni contrevent ni rideau, tandis que la façade elle-même, traversée par une large lézarde, faisait penser à une page de cahier qu'on aurait biffée à la plume. Et c'est dans le bas de cette façade qu'on voyait cette lueur monter, descendre, paraître, disparaître, comme un lambeau d'étoffe déteinte qu'on aurait agité derrière les carreaux. Ce qui a fait que Revaz a été tout de suite assuré qu'Anzévui était chez lui. D'ailleurs, comment n'y aurait-il pas été? Et Revaz s'était remis en route, malgré son genou malade. Mais heureusement que le trajet n'était pas long. Il est arrivé devant le perron. C'était 3 marches sur le côté de la maison, et par un bout, elles étaient enterrées dans la pente. C'était 3 marches qui bougeaient sous le pied parce qu'elles étaient descellées. Elles menaient à une vieille porte cintrée dans le haut. Et il n'y avait plus de poignée à la porte. C'était une grosse ficelle qui faisait manœuvrer à l'intérieur le loquet. Car tout était ancien ici et ruiné. Devant quoi Revaz s'était arrêté, ayant fait du bruit avec ses gros souliers à clous sur les marches de schiste. Pourtant, on n'avait pas bougé dans la maison. Il a cogné du poing contre la porte. « Antoine Anzévui, êtes-vous là ?» On ne répondait pas. « C'est moi, Revaz, Denis Revaz. Est-ce qu'on ne pourrait pas entrer ?» Cependant, il ne tirait toujours pas sur la cordelette, et ainsi a dû attendre encore qu'on se levât à l'intérieur, comme il a entendu enfin qu'on faisait au bruit d'un meuble qui a été déplacé. Puis, la porte ayant été lentement tirée, quelque chose de blanc s'est montré dans l'entrebâillement. « Ah, c'est toi, qu'est-ce que tu veux ?»« Je voudrais vous parler. » Alors la porte s'était ouverte toute grande, de sorte que Revaz n'avait eu qu'à entrer. Au premier moment, on ne voyait rien. Puis on voyait qu'il y avait un feu qui brûlait sur le foyer. Ensuite, on voyait qu'il y avait un grand manteau qui s'avançait hors du mur vers le milieu de la pièce, et sous l'avancement, une vieille table de noyer était couverte de toute espèce d'objets disposés dessus pêle-mêle, tandis qu'un fauteuil à siège de paille défoncé était tiré entre elle et le feu. La porte s'était refermée. Anzévui s'avança devant Revaz en traînant les pieds. Il prit un escabeau qu'il plaça en face du fauteuil devant le feu. « Assieds-toi là » avait-il dit. Ensuite, il avait regagné sa place. Mais alors, on avait vu qu'elle était occupée par un gros livre à reliure de parchemin veiné de rouge, usé aux nervures, rongé dans les coins, quand Zévui souleva avec lenteur et respect, puis posa sur la table, les feuillets en dessous. Il avait une grande barbe blanche. Il avait de longs cheveux blancs qui lui tombaient sur les épaules. « Eh bien, » dit-il. « Antoine en Zévui, » dit Revaz, « je suis bien fâché de vous déranger. Vous étiez en train d'étudier. Vous êtes un savant. Vous lisez dans les livres. Qu'est-ce que c'est? C'est-il la Bible ?» En Zévui ne bougeait pas. Il tenait l'une dans l'autre sur ses genoux ses mains noires. Et comme il faut du temps pour s'habituer à l'obscurité, c'est seulement à présent que la vue pouvait percer jusqu'au mur et permettait de distinguer que la pièce où on se trouvait était une très grande pièce. La lueur du feu faisait un demi-cercle sur les dalles disloquées. Elle s'élargissait parfois, gagnant jusqu'aux fenêtres qui étaient percées dans le mur opposé. Et on s'apercevait aussi que cette pièce avait été une très belle pièce, comme il arrive dans nos montagnes, où on trouve souvent, parmi les petites maisons de bois, une de ces grandes maisons de pierre qui ont été bâties par un homme du village, de retour au pays, après s'être enrichi au service étranger. Seulement, avec le temps, et parce que l'argent a manqué, elles ont été négligées. C'est ainsi qu'il y avait des trous dans le plafond, que la plupart des carreaux avaient été remplacés par des feuilles de papier d'emballage, et que, la fumée du foyer s'étant déposée sur les murs passés à la chaux, il n'y avait dans la chambre qu'une seule tache encore blanche, qui était les cheveux et la barbe d'En Zévui. En Zévui était un homme qui se connaissait en maladies de toute espèce. On venait de loin lui demander conseil, parce qu'il allait chercher des herbes dans les montagnes, et on lui achetait ces herbes, et ces herbes vous guérissaient. C'était de quoi En Zévui vivait. C'était également la raison pour laquelle Revaz était venu ce soir-là. De sorte qu'il avait repris. « Écoutez, Antoine En Zévui, il faut me dire si je vous dérange. » « J'aurai besoin de vos conseils. J'ai le genou droit qui ne va pas. »«
Qu'est-ce que tu t'es fait au genou ?»«
Je ne sais pas, » dit Revaz. « Je me le suis maillé. C'est en faisant les regains. C'est déjà vieux, comme vous voyez. J'ai dû faire un faux mouvement. Et depuis ce temps-là, il ne désenfle pas. Bien au contraire. Chaque fois que je bouge, tout est à recommencer. »«
Montre-moi ça. »
L'autre releva son pantalon. À la lueur du feu, on vit sa jambe, qui était maigre, de couleur grise, avec des nœuds de veines vertes. Et cependant, il tirait sur l'étoffe, qui était de la grosse mylène brune, et résistait. Mais il continuait de la ramener en arrière. «
Vous comprenez, c'est pourquoi je me sers d'un bâton. Je ne peux plus sortir sans bâton. C'est ennuyeux. Je suis comme les vieux. » Et c'est pourquoi je me suis dit, je vais aller demander conseil à En Zévui. Et c'est pourquoi je vous demande, qu'en pensez-vous, Antoine En Zévui ?
Il était penché sur son genou, tenant des deux mains son pantalon ramené sur sa cuisse. Et son genou était comme une grosse betterave rouge, la jambe se renflant brusquement à la place de l'articulation, en même temps qu'elle changeait de couleur. Puis, au-dessous de l'articulation, elle s'amincissait de nouveau.
« Approche-toi, » dit En Zévui.
Revaz, d'un coup de rein, avança son tabouret. Puis il avança encore un peu, l'autre n'ayant pas quitté son fauteuil. Mais sa barbe vint en avant et en même temps il tendait la main. Alors, on a été étonné de voir combien elle était précautionneuse et délicate, parce qu'il avait posé le doigt sur la place malade.
« Ça te fait mal ?»
Revaz secoua la tête. En Zévui appuya plus fort, plus de côté.
« Et à présent ?»«
Un peu. »
Et En Zévui, « C'est pas grand-chose. Je vais te donner une tisane. tu prends une bonne poignée d'herbe, tu la mets sur le feu avec le contenu d'un verre d'eau, tu la laisses bouillir un petit quart d'heure. Et puis, quand le liquide est bien réduit, tu l'étends toute bouillante dans un linge. Tu te l'appliques sur le genou. » Il s'était levé. Il tendit la main. Il vous tournait le dos. On le voit qui mettait la main dans des sacs de papier qui étaient rangés sur le bord de la table, tirant de l'un une poignée d'herbage rosâtre, de l'autre une autre d'herbage jaune, puis une autre et une autre encore. Il mélangea le tout sur une feuille de journal qu'il tordit aux quatre coins. « Tu peux seulement rebaisser ton pantalon, » disait-il à Revaz. « Et Revaz, combien est-ce qu'on vous doit ?»« Attends de voir l'effet que ça te fera. Tous les soirs, en te mettant au lit, un bon cataplasme bien chaud. Mais ça sera peut-être long, et il ne faut pas te décourager. Quand tu seras au bout de la provision, tu n'auras qu'à revenir, si tu n'es pas tout à fait guéri. » Revaz avait rebaissé son pantalon. Anzévui s'était rassis. Et heureusement qu'il y avait toute une pile de bûches contre le mur, tout à côté de la cheminée, parce qu'Anzévui n'avait qu'à tendre le bras pour raviver le feu. Cependant qu'on devinait que Revaz était un peu gêné, parce qu'il avait une dette et il aurait voulu s'en acquitter. « Écoutez, disait-il, écoutez, Anzévui, « j'aimerais mieux si ça ne vous faisait rien. » Mais Anzévui n'a pas paru l'entendre. Anzévui avait repris son livre. Il s'était déplacé légèrement de côté et l'avait tiré à lui, non sans peine, car il semblait peser lourd, ce livre. Qu'Anzévui retourna de manière à l'avoir sur ses genoux. Il prit également un papier et un crayon qui étaient à côté du livre sur la table. C'était une page de carnet déchirée tout de travers et un bout de crayon de charpentier, de forme plate, large et mince. Puis, voilà qu'il mouillait le bout du crayon entre ses lèvres. « Tu sais calculer, Revaz ? Hein ? Tu as l'habitude ? Eh bien, 8 × 237, combien ça fait-il ? Moi, je me fais vieux, j'ai peut-être oublié mon arithmétique. » « Ma foi, » dit Revaz, « faire ce calcul de tête... Tiens !» Anzévui lui avait passé le crayon, la feuille de papier, et Revaz, au bout d'un instant, « ça ferait 1896. »« C'est bien ça. Ajoute 41. »« 1937. »« Tu vois, » dit Anzévui. Il avait repris le papier. Il examinait ses propres calculs. Pendant ce temps, Revaz cherchait à voir ce qu'il y avait dans le livre. Mais à cause de son inclinaison, et parce que par rapport à lui le texte en était renversé, il voyait seulement que les pages étaient partagées en deux colonnes, l'une imprimée en noir, l'autre en rouge, avec beaucoup de chiffres et toute espèce de signes qui étaient des croissants, des globes surmontés d'une croix, et d'autres qu'il avait en bas, des lunes, des circonférences, des triangles. C'est bien ça. Et alors, 4 et 13. Le 13 du 4. Peut-être que ça se voit déjà. Tu n'as rien remarqué? À quoi? À l'air, à la couleur de l'air, parce qu'il se pourrait bien qu'il fût déjà malade. Le ciel, dit-il, parce qu'il est possible qu'ils s'assombrissent peu à peu. Les bêtes, parce qu'elles auront peur, tu comprends? C'est dans le voisinage du soleil que ça se passe. Tu n'as pas fait attention ces jours-ci? Ma foi, nous autres, c'est bien sûr, on n'est pas tant privilégiés. Il faut dire que pour eux, chaque année, vers le 25 octobre, le soleil était vu pour la dernière fois. Et il ne reparaissait pour eux que le 13 avril. Le 25 octobre, à l'heure de midi, au-dessus de la montagne qui est au sud, il y avait encore une traînée de feu, une vague gerbe d'étincelles, comme quand avec un bâton on attise un brasier. Et c'était fini pour 6 mois. même quand le ciel est dans toute sa pureté, l'astre est trop bas derrière la chaîne pour s'annoncer autrement à nous que par une certaine coloration plus pâle de l'azur, qui dit qu'il est là, mais il passe sans se montrer. C'est une commune haut perchée dans la montagne et sur son versant nord, ce qui donne un petit village qui n'a même pas d'église, et il est accroché là, derrière un premier mamelon, au pied d'un autre mamelon, lui-même dominé par des pointes de rochers. D'en bas, du fond de la grande vallée où coule le Rhône, on vous dit « Vous voyez, là-haut ?» On ne voit rien. On voit seulement les hautes pentes noires qui se dressent, moussues de taillis, barbues de sapins, tachées de gris de place en place par l'affleurement des roches, qui sont suintantes d'humidité. Coupées par des gorges et à d'autres endroits couturées par d'énormes tubes d'acier, où l'eau fait une chute de 1500 mètres pour faire tourner les turbines des usines électriques qui sont dans le bas. Mais on a beau renverser la tête, on ne voit pas autre chose. Alors les gens vous disent « Plus à droite, là où la montagne fait avancement parce qu'il y a une vallée derrière, juste sur la crête, vous voyez, il y a une encoche dans la crête. Eh bien ?» Alors on finit par apercevoir, entre les pointes des sapins qui font comme les dents d'une scie, une petite tache grise qui se confond presque tout d'abord avec la terre et les prés d'alentour. C'est les toits, couverts de bardeaux qui empruntent à la roche sa couleur. C'est les 100 habitants à peine de Saint-Martin d'en haut, où ils n'ont même pas d'église, mais descendent pour la messe à Saint-Martin d'en bas. C'est presque séparé du monde par l'hiver. C'est séparé du soleil tout l'hiver à cause de la hauteur de la montagne. « Et justement, » a dit Anzévui, « ce qu'il faudrait savoir, c'est si on ne va pas en être séparé pour toujours.
Oh, »« On n'est pas tellement privilégié, » disait Revaz, « mais enfin quoi, on prend patience. »
« Tu as pourtant refait les calculs, et tu es arrivé au même résultat que moi. Eh bien, je vais te dire, parce que tu n'as pas compris. Eh bien, dans le livre, il y a une guerre. Il y a justement une guerre à présent. Mais il y a aussi une guerre dans la région du Soleil. 1896 et 41, ça fait le compte. Il est dit aussi dans le livre que le ciel s'obscurcira de plus en plus. Et un jour, le soleil ne sera plus revu par nous, non plus seulement pour 6 mois, mais pour toujours. »
Revaz demande.
« Rien que pour nous ?»«
Pour tout le monde !»
Un petit vent s'était mis à souffler. Il descendait dans la cheminée où il faisait tourbillonner la cendre mêlée à la fumée, tout en poussant par moments une espèce de long soupir. Un petit vent s'était mis à souffler. Il passait par-dessous la porte, faisant bouger sur la table le bord redressé des sacs en papier qui craquaient. Il passait sur le toit, où il déplaçait par moments de menus cailloux ronds qu'on entendait rouler tout le long de sa pente. Et Revaz,
ah !
Et Revaz,
j'ai pas bien compris. Vous étudiez dans des livres ? « S'est-il écrit dans vos livres que le soleil ne reviendra pas ?»
Il semblait à la fois effrayé et incrédule. C'était un assez gros homme d'une 50aine d'années.
« Voyons, c'est pas possible, depuis le temps qu'il fait son même tour. »«
Savoir. »«
Depuis le temps qu'il est habitué à nous, et nous habitués à lui. »« Et l'hiver, je sais bien, il nous quitte. » Mais ce n'est que pour un temps. Il ne nous quitte pas pour dire, il s'écarte seulement de nous.
Il s'écartera tout à fait.
On avait fait amitié avec lui, et il nous était bien utile.
Eh bien, il faudra apprendre à s'en passer.
Alors quoi? Il fera nuit?
Voilà, disait Anzévui. C'est d'un dérangement qu'il y aura dans les astres. C'est une maladie que feront les étoiles.
Qu'est-ce que tu veux? C'est écrit.
Seulement, disait-il, l'important est que les calculs soient justes. Je me demandais si je ne m'étais pas trompé. Mais du moment qu'on les a faits ensemble...
Il disait, « Veux-tu qu'on recompte ?»
Chapitre 2. Revaz était rentré chez lui, et ayant déposé le paquet d'herbage sur la table de la cuisine, il avait dit à sa femme, « Tu en mettras une poignée dans un verre d'eau que tu feras bouillir pendant une demi-heure. C'est pour mon genou. »
« Où as-tu été ?»«
Chez Anzévui. »
Il avait dit ensuite,
« Et Lucien, où est-il ?»«
Tu sais bien. »«
Oh » avait-il dit, « c'est pas le moment de fréquenter. Il faudra que je lui en touche un mot. »
Et la femme de Revaz aurait bien voulu l'interroger plus longuement, mais il avait déjà passé la porte. Lucien, c'était son fils, qui avait une bonne amie. Et lui, il avait dit, « C'est pas le moment. » Il sort, il faisait nuit, le jour était tout à fait tombé. Toute espèce de lumière s'était finalement éteinte à la hauteur du sommet des montagnes, là où le soleil se couche sans qu'on puisse le voir d'ici. Mais il s'y marque d'ordinaire par des taches rouges, comme des traces de sang sur un linge. Ce soir-là, le ciel était uniformément noir. Seul, de ci, de là, à une petite fenêtre ou à une des rangées de petites fenêtres qui étaient alignées, les unes au-dessus des autres, sur le devant des maisons, la lumière d'une lampe indiquait à peu près la direction de la rue. Sans quoi, on eût été comme l'aveugle et tout à fait privé de la faculté de se conduire. De même qu'on n'entendait rien, mais rien du tout, les gens s'étant enfermés chez eux, et ayant mis entre eux et vous l'épaisseur de la porte bien fermée, l'épaisseur de leur double fenêtre. C'est une petite rue, longue d'une cinquantaine de mètres au plus, où beaucoup de passages aboutissent, serpentant entre les fenils et ce qu'ils appellent des racards, qui sont des espèces de remises où ils logent leurs provisions. C'est une centaine de bâtiments, dont une vingtaine habités, lesquels, pour la plupart, bordent la rue. Quelques-uns ont deux et même trois étages, étant bâtis en beau bois de mélèze sur un soubassement de pierre passé à la chaux, mais ils étaient eux-mêmes couleur d'ombre et de nuit, ajoutant encore à l'obscurité. Revaz s'avançait avec lenteur et précaution, à cause de son genou malade, faisant un bruit sourd avec sa canne, au milieu de ce petit village dont on dirait qu'on l'a serré entre ses mains pour en réduire le volume, avant de le poser là-haut dans la montagne, hors du monde. Il y fait d'habitude une petite tache ronde. À cette heure, on n'aurait même pas su qu'il existait sans la vitrine du café à Pralon. Il y avait dans le café plusieurs lampes électriques qui donnait une forte lumière sur les murs revêtus d'une boiserie passée au copal et sur les quatre tables entre lesquelles la grosse Sidonie s'essuyait justement les mains à son tablier. Plusieurs lampes, une TSF, quatre tables, et par une porte ouverte, on voyait la cuisine qui servait de comptoir. Sidonie riait à cause d'une voix de femme qui sortait de la boîte en bois poli où il y avait des découpures en forme de feuillage, garnies à l'intérieur d'un fin treillis métallique. Est-ce pour empêcher les mouches d'entrer? Pendant que les hommes écoutaient d'un air sérieux. Ils étaient six. « Toi, tu te la mettras sur la tête. Moi, je me la mets dans l'estomac. » C'était fini. Revaz posa sa canne dans un coin. Une autre grosse voix se fit alors entendre. Elle parlait du nez, et voilà que Morand disait « Il a le rhume ». C'était une conférence sur la musique chinoise. Les hommes se sont tournés vers Revaz. Ils lui ont dit « Comment vas-tu ?» Morand, Follonier, Lamont, Antide, Morand, Ernest, Follonier, Placide,
Lamon Érasme, Antide Augustin, c'est-à-dire quatre hommes d'âge et un jeune. Et il y en avait encore un dont on ne voyait pas la figure parce qu'il la tenait penchée sur la table où ses bras étaient posés l'un sur l'autre.
« Ça ne marche toujours pas, ton genou ?» disait Follonier.
« Pas tant.
Je sais ce que c'est. Quel âge as-tu ? »
51.
« Eh bien, c'est l'âge. »«
C'est pas des maladies, » disait Follonier.
« C'est consuse. On est comme les outils qui ont trop servi. Il y a toujours une place où ça frotte plus qu'aux autres. »
Revaz s'était assis avec un soupir.
« Vois-tu, les genoux, ça nous porte. Les genoux, c'est la charnière. Et dans un pays comme le nôtre, tout en bosse et en creux, ça travaille, la charnière. Le mâle se met aux places qui travaillent le plus. Par exemple, ceux qui boivent, c'est le coude. Ceux qui sont trop retenus d'argent, c'est les boyaux. »
Il parlait et riait beaucoup. C'était un homme de bonne humeur, et la grosse Sidonie s'amusait. Mais Revaz gardait une figure soucieuse, n'ayant même pas regardé Follonier, à qui il a dit seulement « Je voudrais t'y voir. » Et il y avait Arletaz qui ne disait rien. C'est ainsi qu'ils ont été ensemble chez Pralon, s'y étant retrouvés comme souvent l'hiver où les soirées sont longues. Dès 5 heures, on n'y voit plus, et même avant 5 heures, quand le ciel est bouché, comme il l'avait été particulièrement aujourd'hui. Alors ils sont là, de 6 à 9 heures, et soupent au retour, si le cœur leur en dit. Mais le vin est nourrissant, de sorte que les femmes ne les attendent même pas. Ils les trouvent le plus souvent couchés quand ils reviennent, se couchant alors eux-mêmes à leur côté dans le grand lit pour une nouvelle nuit qui est retranchée de leur vie, comme quand on arrache un feuillet à un livre qui n'en a déjà plus beaucoup. Ils sont, pour le moment, chez Pralon. Ils parlent de leurs affaires en buvant un litre ou deux de muscat. Ils discutent sur le prix des mulets et des vaches, s'il est à la hausse ou à la baisse, s'il faut vendre ou bien acheter, sur la qualité du regain, sur le taux des prêts hypothécaires, sur les prochaines élections, sur les nouvelles de la guerre, car il y en a toujours des guerres. Il y en avait une en Espagne cette année-là. Et à présent que cette télégraphie sans fil existe, de temps en temps, ils se taisent pour écouter les nouvelles. C'est une voix qui vient, on ne sait pas d'où, née de nulle part ou de partout, née de rien, fille du néant. C'est de la musique ? Des violons, des trompettes, des tambours. C'est une femme, une foule, des canons qui tonnent, des fusils qui partent, 10 000 hommes ou un seul, le bruit du vent, le bruit des vagues. Et ce bruit a été d'abord des choses, mais elles ne sont plus pour nous que du bruit. L'oreille n'en distingue même pas le point d'origine. Sont plus ou moins d'intensité et sans signification quant à la distance qu'elle a parcourue. Les lieux ne le fatiguent pas, il est insoucieux des myriamètres. De sorte qu'il est faible, et on vous dit « c'est Genève ». Il a toute sa force, mais il vient de New York. Dans la montagne, l'écho dévie bien les sons, et en les répercutant, les entrecroise, faisant venir de la paroi opposée le son qui a été projeté. Mais les yeux ont vite fait de vous renseigner quand même sur sa provenance réelle, parce qu'on est soi-même une réalité dans un monde qui lui aussi est quelque chose de réel. Ici, dans cette salle à boire, les clients avaient eu beau se pencher au commencement sur la boîte, cherchant à distinguer par les ouvertures comment c'était fait en dedans et à connaître le truc, ils ont eu vite fait de voir qu'il n'y avait rien à voir, point de rouleau ni de rouage, ni de disques, ni d'aiguilles, rien que des lampes. Et c'était la grosse Sidonie qui décidait d'un simple mouvement des doigts quel pays allait se faire entendre. Une femme comme nous. De sorte qu'ayant connu le miracle, du même coup, il l'avait accepté. Maintenant, il n'écoutait même plus ce que disait le poste, qui était comme un robinet. Et le matin, on ouvrait le robinet. C'était Revaz qu'on écoutait. Parce qu'il s'était mis finalement à répondre à Follonier. Il lui disait « Je voudrais bien t'y voir. Regarde-moi ça. » Il avançait son genou dans la direction de Follonier. « Tâte seulement. C'est comme une tête d'enfant. À peine si je peux plier la jambe. »
« C'est du rhumatisme, » disait l'amant.
« Du rhumatisme, j'en ai dans l'épaule, elle n'a pas enflé. Tandis que ce genou, à mesure qu'on s'avance dans la journée, il devient plus gros, il devient plus lourd, il devient plus chaud. Alors, on voyait qu'il avait quelque chose à dire, et il hésitait à le dire, mais il ne pouvait pourtant pas ne pas le dire.
« Eh bien, oui, » dit-il. « J'ai fini par aller demander conseil à Anzévui. »
Follonier éclata de rire. « Et il t'a donné de ses plantes ?»«
Oui, des compresses à faire tous les soirs. »«
Bien entendu. »«
C'est un savant, » disait l'amant.
« Oui, il s'entend à profiter du monde. »«
C'est un savant, » disait Morand.
« Il sait des choses qu'on ne sait pas, nous autres. » disait Revaz. Arletaz ne disait toujours rien.
Il étudie dans des gros livres.
Et Augustin écoutait, et Revaz.
Et même quand j'ai été le trouver, il était en train de lire dans un de ses livres. Il faisait des calculs.
Des calculs sur quoi? Demanda Follonier.
Des calculs sur le soleil.
Alors Follonier se mit à rire plus encore. Et les autres devenaient attentifs, tandis que la grosse Sidonie, attirée par le bruit, était apparue sur la porte de sa cuisine.
« En tout cas, » disait Follonier, « il a toujours su se tirer d'affaire. Il a toujours été sans le sou, mais il a toujours su vous en tirer, à vous, qui n'êtes pourtant pas facile à vous laisser faire. Il a eu la chance que le monde soit fait pour une bonne moitié de femmes, hein ?» Avec ses herbes et ses tisanes.
C'est pas ça, disait Revaz.
Et qu'il y ait eu des filles qui avaient des inquiétudes à leur fin de mois.
C'est pas ça.
Et c'est quoi?
C'est le soleil.
Le soleil?
Oui.
Et qu'est-ce qu'il va arriver au soleil?
Du pâton bon, dit Revaz. Il avait ramené à lui sa jambe, qu'il tenait allongée sous la table, et prit son verre, et son autre jambe était pliée à angle droit. Il a vidé son verre d'un seul coup, comme pour se donner du courage. Tout le monde le regardait, sauf Arletaz, et tout le monde s'était tourné vers lui.
« Eh bien, il dit que le soleil n'en a plus pour longtemps à nous éclairer, nous autres. Il a fait des calculs. Il dit qu'il donne... 1937, et il donne 4 et 13. Ça ne fait plus que 4 ou 5 mois. Et puis alors, il s'en ira.
Qui ça? Anzévui?
Non, pas le soleil.
Follonier se tapa sur la cuisse. Mais en même temps, Arletaz avait relevé sa grosse tête à petits yeux.
Tant mieux.
Pourquoi?
Je n'aurai plus besoin de la chercher.
« Tu es fou !» criait Follonier. « Tu es fou, Arletaz. Mais pas tant que le conseiller. Et lui, pas tellement qu'Anzévui.
Mais celui-ci, on le connaît. Alors, taisez-vous, » disait-il, « parce que Revaz n'a pas fini de s'expliquer. »
Il fit de nouveau claquer sa cuisse.
« Alors, ce soleil !»
« Eh bien, je sais pas, moi, je ne suis pas un savant comme Anzévui. J'ai pas lu ses livres. »«
On te demande seulement de nous dire comment ça se passera, le soleil qui n'éclaire plus.
Pourquoi est-ce qu'il n'éclairera plus ?»«
Je sais pas. Il y a extinction. Ou bien c'est nous qu'on cesse de tourner. »«
Oh, justement, » disait Follonier, « c'est qu'on tourne et on ne peut pas cesser de tourner. » Comment veux-tu qu'on cesse de tourner?
Je sais pas.
On tourne même doublement. parce qu'on tourne autour du soleil et ensuite autour de nous-mêmes. Et ça fait la nuit et le jour. Pour qu'il n'y ait plus pour nous que la nuit, il faudrait qu'on soit comme la lune.
Justement.
Ou bien que le soleil éclate en morceaux. Comment est-ce qu'il peut éclater en morceaux? Il faudrait qu'il rencontre une comète.
Justement.
Mais il n'y a point de comète. Ou bien qu'il se refroidisse tout à coup et qu'il devienne noir comme quand on pisse dans le feu.
Mais une voix plus forte dans le poste de télégraphie sans fil disait à ce moment
« Événement d'Espagne. Les nationaux approchent de Malaga. Un de leurs détachements s'avance par la route qui longe la mer, l'autre vient de déborder la ville en passant par la montagne. La prise de Malaga ne semble plus être qu'une question de jour. »
C'est ce qui a encouragé Revaz. Il m'a dit, c'est en Zévui, qu'il y aurait une guerre et qu'avant la fin de cette guerre, le soleil se détournerait de nous. Et c'est tout ce que je sais. Mais je voulais vous en prévenir, parce que si par hasard en Zévui avait dit vrai, il ne serait pas mauvais qu'on le sache à l'avance. Il y aurait peut-être des précautions à prendre.
Quelles précautions, mon pauvre ami?
Je sais pas, s'enfermer chez soi, faire des provisions.
Mon pauvre vieux, tu serais tout de suite gelé.
Justement, si on avait assez de bois, on pourrait attendre.
Attendre quoi?
Qu'ils reviennent.
Moi, dit Arletaz, j'espère qu'il ne reviendra pas. Ça m'arrangerait bien qu'il ne revienne pas.
C'est que, depuis 2 ans, il courait le pays à la recherche de sa fille, une grande belle fille de 19 ans qui avait quitté la maison. Et elle avait laissé sur la table de la cuisine un billet où elle avait écrit qu'elle allait chez une cousine qu'elle avait à Sion. Et lui, Arletaz, 1 ou 2 semaines plus tard, avait été à Sion pour la voir. Elle n'y était déjà plus. La cousine avait ri. « Oh, elle n'est pas restée longtemps chez moi. Pas moyen de la retenir. »«
Et où est-elle ? » ?»«
Je ne sais pas. » Alors Arletaz s'était mis à chercher sa fille partout, étant absent de chez lui des semaines entières et reparaissant tout à coup. Il avait été jusqu'à un des bouts du pays, du côté allemand, et jusqu'au glacier du Rhône. Il ne l'y avait pas trouvé. Et de l'autre côté, jusque par-delà Saint-Maurice, tout aussi inutilement. Tandis qu'il tournait maintenant vers vous dans une figure tout en plis, et de parmi sa grosse barbe, 2 petits yeux bleus étonnés.
Ça serait enfin le repos, et pas seulement pour les jambes, disait-il.
Parce qu'il n'y a pas seulement les jambes qui se fatiguent, mais l'esprit aussi. À cause qu'on est tout le temps forcé de penser et d'imaginer. Car ça va faire près de 3 ans. Et sa tête était retombée. Folonier, par 2 fois, hausse les épaules. Mais il était peut-être le seul à être tout à fait d'aplomb. Une vague inquiétude ayant gagné tous ceux qui étaient là, y compris Augustin. Et Augustin disait «
Enfin, il faut bien dire qu'il fait un drôle de temps cet hiver. »
C'était un jeune homme.
« Vous ne trouvez pas ? Depuis 1 ou 2 mois, depuis qu'on n'a plus revu le soleil.
Mais enfin, ça, c'est dans la règle.
Ce qui ne l'est pas, hein, c'est ce brouillard, ce plafond qu'on a sur la tête.
Peut-être bien qu'en Zéoui a raison. Peut-être bien que le soleil s'affaiblit.
« Voyons, dit Folonier, il ne faudrait pourtant pas qu'on en oublie de boire. Qu'en dis-tu, Arletaz, toi qui n'aimes pas le goût de l'eau ?»
Mais il ne semblait pas qu'on l'écoutât, et même la grosse Sidonie sur le seuil de sa cuisine s'était tournée vers Augustin, à qui on répondait
« Ma foi, peut-être bien. »
« Moi, disait Morand, tout ce que je sais, c'est qu'en Zévui est un homme qui a de l'instruction, et beaucoup.
Et après tout, ce qu'il annonce, oui, ses prédictions.
« Je pense moi aussi que la chose est possible, » disait Lamont,
et même très possible, bien que ça ne soit jamais vu. Mais je dis que c'est un savant. Mesdames, messieurs, veuillez écouter les prévisions météorologiques pour demain. Temps incertain, précipitations dans la plaine, brouillard sur la montagne. Température douce, les taches que l'on constate dans le soleil seront peut-être la cause de troubles assez inhabituels en cette saison.
« Tu entends ? Des taches dans le soleil !» disait Revaz.
« Hein ? Des taches dans le soleil ! » disait Arletaz. Pendant ce temps, elle attendait son mari et s'impatientait à l'attendre. Il n'était marié que depuis 6 mois. C'était Isabelle Antibes, la femme d'Augustin. Elle l'attendait dans leur chambre à eux, toute boisée de beaux mélèzes neufs, avec la lumière électrique, et autour de l'ampoule, un abat-jour en perles roses. Elle était assise sur une chaise à côté du grand lit, recouvert d'une guipure à fond grenat, qui était un cadeau de ses amis de noces. Elle se disait « Qu'est-ce qu'il peut bien faire ?» À ce moment, Augustin avait voulu se lever de dessus son banc chez Pralon. On lui avait dit « Tu es bien pressé !» Elle se tenait à côté du grand lit, et autour d'elle, sur le mur, il y avait toute leur parenté, en agrandissement ou simple portrait photographique. Sa mère, à elle, dans un cadre noir filé d'or, un cousin qui était gendarme, un cousin qui était sergent dans l'armée, un cousin qui était dans les chemins de fer, tous les trois en uniforme. Et il y avait encore un tableau représentant Sainte Cécile, en robe de satin bleu, qui levait ses belles mains à hauteur de sa figure, les doigts à demi engagés entre les cordes de l'instrument. C'est une harpe à pédales. Augustin s'était levé de nouveau chez Pralon. On lui avait dit « Attends un moment !» Mais alors Follonier s'était mis à rire. « Laissez-le faire, on sait bien pourquoi il est si pressé !» On avait laissé aller Augustin. Et eux, dans le café, avaient repris leur discussion. Lui, il avait été un instant dans la nuit. Puis la porte de la chambre s'était ouverte d'elle-même en haut de l'escalier de bois, parce qu'elle, elle était derrière. Et c'est elle qui l'a reçue sous la lumière de la lampe avec la lumière de ses yeux. « Ah, te voilà enfin !» Mais tout de suite, « Qu'est-ce que tu as ?» On leur avait bâti une petite maison à côté de la vieille où habitaient le père et la mère Antibes. On l'avait bâti tout exprès pour eux, l'été d'avant, avec une chambre et une cuisine au rez-de-chaussée et 2 chambres encore au-dessus.
« Mais j'ai rien. »«
Que si !» dit-elle. « Je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Oh, »« C'est que c'est un savant !» dit-il.
Elle avait la figure comme l'abricot quand il est bien mûr.
« Qui est-ce qui est tant savant que ça ?»
Elle l'avait pris par le cou. Elle l'avait fait tomber sur une chaise. Elle s'est assise sur ses genoux. Augustin a dit « Il lit dans les livres. » Et elle
« Qui ça ?»
« En Zévui. »
« Et alors ?»«
Alors ?» dit-il. Ça ne va plus aller longtemps, parce que tout va s'arrêter.
Quand ?
Bientôt. Mais elle l'a lâché. Elle s'est mise à rire.
Benet, dit-elle. Voyons, Augustin, voyons, est-ce que tu vas croire à ces histoires ? Je le connais bien, ton Anzévui. Quand on était petite fille, une fois on était monté à 4 ou 5 chercher des fleurs pour la fête Dieu dans le bois de Chassour. Il y était, justement. Tu sais bien, lui, c'est des plantes qu'il cherche. On l'avait vu de loin qu'il les cherchait, mais lui ne nous avait pas vus. C'était il y a 10 ans, peut-être. Oh, il n'était pas si vieux qu'aujourd'hui. Il avait bien une barbe, mais pas si longue et pas si blanche qu'à présent. Il n'était pas si mal habillé non plus. Pourtant, on avait déjà peur de lui, nous autres. On s'était cachés derrière des troncs. Et voilà qu'un peu plus loin, il y avait Brigitte, la vieille Brigitte. mais elle n'était pas si vieille non plus, et elle était en train de ramasser du bois.
Sais-tu ce qu'il a fait, en Zévui?
Il l'a appelée. Elle ne voulait pas venir. Il lui disait des choses, oh, des choses. Il lui disait « Allons, arrive, on ne sera pas dérangés. » Mais elle lui a tiré la langue. Nous autres, on s'était mis à rire. On riait même tellement qu'Ambroisine Pralon nous disait « Taisez-vous, il va nous entendre. » Quant à lui, il s'était mis à courir après Brigitte qui s'était sauvée. Seulement, elle avait de l'avance. « Tais-toi, » dit-elle, « tais-toi. » Elle le faisait taire avec sa bouche, parce qu'on voyait qu'Augustin avait envie de recommencer à parler. Elle lui mettait les lèvres sur les lèvres. Puis, « Voilà ce que c'est, ton Anzévui. Ce n'est qu'un homme, et un pas très honnête homme. Tu sais, Ambroisine Pralon, elle a été chez lui, elle, il n'y a pas bien longtemps. Elle avait des tournements de tête. Elle disait, « Je ne sais pas ce que c'est. » Il lui a dit, « Ambroisine, tu as été avec des garçons. » Comme elle s'amusait en me racontant sa visite, elle me disait, « Si seulement il avait pu me dire vrai, ah, oh, si seulement c'était ça. » C'est qu'elle a bientôt 24 ans. « Ah, disait-elle, il n'a pas été malin. Dieu sait pourtant si je voudrais, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Tais-toi, tais-toi, disait-elle. » Et en effet, le faisait taire. Puis, « Qu'est-ce que ça peut nous faire, ces histoires ? Il est vieux à présent, il est très vieux, il va mourir. Il y a bien longtemps qu'il ne paie plus le loyer de sa maison. Elle lui coule sur la tête. Un de ces jours, elle va tomber. C'est peut-être de sa maison qu'il veut parler, ou bien de lui, parce qu'elle ne durera plus guère. » Elle lui disait, « Tais-toi !» Elle lui mettait un baiser sur un œil, et puis sur l'autre. Elle lui disait, « Tu as les joues douces aujourd'hui, tu es bien rasée. » Elle lui mettait un baiser sur chaque joue, et un autre baiser encore plus bas, de sorte qu'il ne pouvait plus rien dire. Il ne pouvait que secouer la tête. Pour finir, il n'avait même plus eu la force de la secouer du tout. Chapitre 3. À quelque temps de là, le fils aîné de Denis Revaz était venu rendre visite à ses parents parce qu'il travaillait dans les vignes au bord du lac. Il était arrivé le samedi soir. Et le dimanche, comme c'est la coutume, il avait été faire la tournée des ménages avec qui il était lié d'amitié. C'est ainsi que vers les 2 heures, il s'était présenté chez Augustin Antibde, qui était un peu son cousin. On l'avait fait asseoir, on lui disait « Comment es-tu venu ?»« Avec le camion de la consommation. »« Et jusque où ?»« Jusqu'à Saint-Martin d'en bas. »« Il n'y a pas trop de neige ?»« Oh, disait-il, c'est qu'ils ont un bon camion et un bon chauffeur. C'est un Italien. Il passe partout, par tous les temps. Mais quel drôle de pays que le nôtre. C'est un pays triste, disait-il. Et celui de là-bas? Ici, c'est gris. Là-bas, c'est bleu. On a eu le beau cette année, tout le temps de la vendange. Ici, on n'a point de soleil de tout l'hiver. Là-bas, ils en ont 2, tout le long de l'année. Vous comprenez, ça fait une différence. On lui disait, « 2 ? » ?»« Oui, il y a celui qui est dans le ciel, et puis celui qui est dans l'eau. » On lui disait, « Celui qui est dans l'eau ? » ?»« Oui, c'est qu'il y a le lac. Oh, c'est raide là-bas, c'est encore plus raide qu'ici. C'est une côte au bord de l'eau. C'est comme un côté de baignoire. Ça a 200 mètres de haut. Et la terre n'y tiendrait pas toute seule. » Mais ils ont fait partout des murs, qu'ils ont mis les uns au-dessus des autres, qui la soutiennent, et où ils cultivent la vigne, avec des fossoirs, remontant chaque hiver dans des hottes la terre qui est descendue. Ils sont là, voyez-vous, comme sur des marches d'escalier. Et ils sont dans l'air, voyez-vous, parce qu'il y a de l'air partout. Il y a au-dessus d'eux l'air qui est bleu, en face d'eux la montagne qui est bleue,
au-dessous d'eux le lac qui est bleu. Le soleil vous tape sur la tête, mais il y en a un autre, celui d'en bas, qui vous tape dans le dos. Ça en fait deux. Celui d'en haut, qui est en un point, tout rassemblé, et celui d'en bas, qui est tout cassé en morceaux et éparpillé, parce qu'il y a l'eau qui le balance et en bombarde la côte. Ça en fait deux qui chauffent ensemble. C'est pourquoi ils ont du bon vin.
Alors, tu te plais là-bas ?
Ma foi, disait Julien Revaz, pas tant. Vous comprenez, on a l'ennui de chez soi. Ou du moins, pas tant jusqu'à hier, et j'étais content de rentrer.
Et à présent, tu n'es plus content ?
Oh, dit-il, c'est à cause du changement de temps. Jusqu'à Sion, il a fait clair.
Et depuis Sion ?
Eh bien, vous voyez, parce que c'est à Sion que j'ai trouvé le camion, et jusqu'au Rhône, il a fait clair. Mais là, il y avait une barre à travers la plaine. C'était l'ombre des montagnes. Et jusque-là, il n'y avait pas eu de neige. Mais ensuite, tout est devenu blanc. En même temps, c'est l'air qui a changé, la couleur de l'air, la couleur des choses, parce que vous n'avez plus le soleil. Et il n'y a plus d'eau non plus pour le doubler.
C'est vrai qu'il fait gris cette année, dit le père Antibes.
Alors, disait Julien Revaz, on est monté. La route est ouverte jusqu'à Saint-Martin d'en bas. Mais c'est tout juste si le camion peut y passer. Il y a un bon mètre de neige de chaque côté du chemin. Et heureusement encore, dit-il, parce qu'on dérape. Mais c'est un bon chauffeur. Je lui disais, qu'est-ce que tu transportes ?
Du macaroni, du riz, des harengs pour le carême, du sucre, un peu de café.
Le difficile, c'est les tournants. Il me disait, ne fais pas attention. Et moi, je levais la tête. Eh bien, voyez-vous, il n'y avait plus rien. Ni corne du diable, ni dents rouges, ni grimpion. Rien que comme une voûte de cave avec des taches d'humidité.
C'est vrai qu'il fait bien couvert cette année, dit la mère Antibes.
Et l'ennuyeux, disait Julien Revaz, c'est qu'on n'ait pas le temps de s'y habituer.
Oui, disait-il, à ces différences, à ces changements, on va trop vite. J'avais encore le lac dans la tête et les vignes, c'était encore plein de fleurs dans ma tête, aux fentes des murs. Bon, je me sens glisser de côté, tu penches, tu regardes où tu penches, tu vois que tu es au-dessus du vide. C'était au tournant des Goualettes. Et là, vous savez, on est juste au-dessus de la gorge de la Surine. Vous savez bien, là où le roc fait avancement. C'est un à-pic qui a bien 300 mètres. Mais moi, ce n'était pas seulement cet à-pic qui m'inquiétait. C'est qu'il faisait gris, c'est qu'il faisait triste. Heureusement qu'on est bien arrivé à Saint-Martin d'en bas. Et qu'on y a trouvé de quoi boire.
Eh bien, dit Isabelle, il te faut reboire. Nous autres, notre soleil est en bouteille.
Eh, hey, Augustin !
Augustin avait été chercher une bouteille et des verres.
Notre soleil, à nous, on le tient à la cave. On n'a pas besoin d'aller loin pour le trouver.
Ils burent. On a dit à Julien Revaz, « Comment ça va-t-il chez toi ?»
Justement, ça ne va pas.
Ça ne va pas ? Eh bien non, ça ne va pas tant bien. Le père se plaint de son genou. Mon frère, eh bien, vous savez qu'il fréquente. Mais là non plus, on ne sait pas bien ce qui se passe, parce que le père est fâché. Le père dit, ce n'est pas le moment de penser à se marier. Alors Lucien est obligé de voir sa bonne amie en cachette, et personne n'est content.
Il regardait autour de lui. Ils ont mauvaise mine.
Et vous, c'est vrai que vous n'avez pas bonne mine non plus. Vous êtes tout pâle.
Oui, vous, le père Antibes, et vous, la mère Antibes.
Et toi aussi, Augustin.
Et moi ? Dit Isabelle.
Oh, pas vous.
Et moi ?
Dit alors Jean, qui était le frère d'Augustin.
Oh, pas toi.
Et comment est-ce que ça se fait, dit-il, puisque vous vivez tous à l'ombre, qu'il y ait cette différence? Est-ce l'âge? Mais tu n'es pas vieux, Augustin. Si vous veniez d'où je viens, vous auriez le soleil écrit sur la figure, parce qu'il va durer. Il dure. On ne connaît pas l'hiver là-bas. Le soleil renoue par-dessus l'hiver le temps où les feuilles de la vigne sont jaunes, avec celui où les souches pleurent, serrées, et mouillent la terre sous elles, tellement il leur sort d'eau par le travers des bois taillés. Est-ce parce qu'il avait déjà beaucoup bu? Mais il était parti. On ne pouvait plus l'arrêter. Il renoue par-dessus l'hiver, l'automne au printemps.
Écoute, disait Augustin.
Il renoue par-dessus l'hiver les grappes mûres aux grappes vertes. Qu'est-ce que vous allez faire sans lui?
C'est justement.
Isabelle avait tiré Augustin par la manche. Il n'en continuait pas moins.
Tu ne sais pas encore. Il y a du nouveau. Il paraît que ça ne va pas.
Isabelle lui a mis la main sur la bouche, mais il a fait un brusque mouvement en arrière.
Le soleil!
Sa voix a été étouffée de nouveau. Il reprend. C'est Anzévui. Il est savant. Eh bien. Il tenait à présent Isabelle par les poignets. Il dit qu'il ne reviendra pas, le soleil, et que c'est écrit dans ses livres.
Alors,
avait dit Julien Revaz, tu y crois à ces histoires?
Disait-il, ça ne m'étonne pas que tu y crois. Un pays comme le nôtre, un pays pauvre, un pays triste, un pays où il n'est pas là pendant 6 mois. Ça vous donne des idées.
Et moi, dit Brigitte, j'ai vu Anzévui. Elle était là depuis un moment, mais personne n'avait fait attention à elle. Elle était tout habillée de noir, avec un mouchoir noir noué autour de la tête, et, assise un peu en arrière du monde dans un coin, sa petite personne s'y confondait tout avec l'ombre. On lui a demandé.
« Vous l'avez vu ?»«
Bien sûr, j'ai été le trouver. »«
Et qu'est-ce qu'il vous a dit ?»«
Il m'a dit que c'était écrit. » »«
Mais vous y croyez ?»«
Moi, j'y crois. » L'étonnant est qu'à ce même moment, Julien Revaz s'était levé. On lui avait dit
« Qu'est-ce que tu fais ?»«
Je m'en vais. »«
Mais voyons, tu as bien le temps. Tu nous avais dit que tu avais l'intention de rester jusqu'à demain. » »«
J'ai changé d'avis. » »«
Mais comment vas-tu t'y prendre pour t'en retourner ? Tu ne vas pourtant pas t'exposer à être sur la route de nuit. » »«
Je m'arrangerai bien. Au revoir. Peut-être au printemps prochain. »